Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle a inspiré les grands artistes de la Renaissance. Elle était si belle qu'au XVe siècle, les Florentins l'avaient surnommée la sans pareil. Stéphane Bern n'a pas son pareil pour nous raconter la vie de la muse Simonetta Vespucci.
Sans aucun doute, Mathieu, connaissez-vous la célèbre Vénus sortie des eaux ? La naissance de Vénus, chef-d'œuvre peint par Botticelli vers 1484. Aujourd'hui, au musée des Offices de Florence, en Italie, il en existe des reproductions dans le monde entier. Nue, les cheveux longs et libres, la Vénus se tient debout sur un coquillage au-dessus de la mer. Son corps est harmonieux et son visage frôle la perfection. Elle est si belle qu'on croirait tout droit sortie de l'imagination du peintre. Pourtant, cette Vénus aurait bel et bien existé. Elle s'appelait Simonetta Vespucci. Je précise que les informations dont nous disposons sur cette belle dame sont rares et imprégnées de légendes. Son histoire a certainement été fortement romancée, mais sa vie, aussi courte fut-elle, a aussi tout d'un roman, ou tout du moins d'une nouvelle. Simonetta Cataneo, il s'agit du nom de naissance de Simonetta Vespucci, voit le jour en 1453 dans une puissante famille de Gênes qui se retrouve contrainte à l'exil alors que la petite fille n'a que 5 ans. Suivant ses parents, elle se retrouve dans la ville toscane de Piombino chez son oncle, un chef de guerre proche de Florence. Comme toute jeune fille bien née de la Renaissance italienne, Simonetta est éduquée, cultivée et maîtrise l'art de la conversation. Quand ses parents cherchent à la marier, ils comptent bien trouver un fiancé à sa hauteur. C'est Marco Vespucci, issu d'une lignée de riches banquiers proches du pouvoir florentin, qui est l'heureux élu. Inutile de préciser que personne n'a demandé l'avis de Simonetta quant au choix de son futur époux. Simonetta, qui est désormais une Vespucci, a environ 17 ans. Quand elle se marie et arrive à Florence, où règne Laurent de Médicis, surnommé Laurent le Magnifique, le maître de Florence est un vrai prince de la Renaissance, mécène fastueux et épris de culture. Il attire à Florence les plus grands artistes italiens, Sandro Botticelli ou Leonardo da Vinci. Simonetta Vespucci, désormais jeune mariée, s'établit à Florence avec son époux Marco. En février 1469, Simonetta Vespucci fait l'une de ses premières apparitions à l'occasion d'une joute. Lors de ces représentations, les hommes des plus prestigieuses familles florentines se battent à cheval en public. Enfin, quand je dis qu'ils se battent, les échanges sont plutôt courtois, ce qui laisse tout le loisir à Laurent de Médicis et son jeune frère Julien de remarquer la beauté de Simonetta. Mais Simonetta Vespucci doit quitter Florence pour suivre son époux et son beau-père à Scarperia, à 25 km de là, où ce dernier vient d'être nommé. Elle ne revient à Florence que 3 ans plus tard, et immédiatement, la beauté de la jeune femme attire à nouveau tous les regards. Belle et douce, sa gentillesse frappe ceux qui l'entourent. Écoutez ce que dit d'elle le poète Ange Policien, à qui elle a inspiré de nombreux vers. De sa tête dorée, les cheveux descendent en boucle sur son front, à la fois humble en sa superbe. Lors des bals, les invités s'extasient devant son visage de madone et sa taille fine. Elle est si belle qu'on la compare aux grâces de l'Antiquité. Il n'en faut pas plus pour stimuler l'imagination de Sandro Botticelli, qui immortalise le charme de Simonetta Vespucci. Botticelli, qui s'appelle en réalité Alessandro Filippi, aurait habité dans le même quartier que Simonetta quand elle arrive à Florence la première fois. Botticelli sort alors à peine de l'atelier de l'artiste Fra Filippo Lippi, où il a appris l'orfèvrerie, la gravure et la ciselure pendant plusieurs années. Et les Vespucci sont parmi les premiers à lui passer commande. Botticelli a quelques années de plus que la jeune femme et sans doute la remarque-t-il bien avant qu'elle ne devienne la coqueluche de Florence. Peut-être l'a-t-il aperçu, brève apparition à sa fenêtre, ou recueilli à l'église, ou lisant tout simplement chez elle? On peut supposer que la beauté parfaite de Simonetta Vespucci enflamme l'imagination de l'artiste et qu'il nourrit pour elle dès lors un amour platonique. On imagine Botticelli dessinant et coloriant en esprit sa belle voisine à qui il ose à peine adresser la parole, car figurez-vous que le peintre est extrêmement timide. En 1475, pourtant, se présente enfin l'occasion pour Botticelli de réaliser le portrait de Simonetta Vespucci. Laurent de Médicis organise une fête grandiose dont la jeune femme est la reine. Des farandoles nocturnes et déguisées sont organisées et Laurent de Médicis lui-même a composé les chants de ce fantastique carnaval en l'honneur de la jeune femme. Pendant les joutes, son frère Julien de Médicis, dont l'histoire raconte qu'il est certainement l'amant de Simonetta Vespucci, arbore un étendard sur lequel figure le portrait de la jeune femme peint par Botticelli. Elle y est représentée sous les traits d'une déesse accompagnée de ces mots « la sans par », « la sans pareille » en français, qui est son surnom à Florence. Il est peu probable que Simonetta Vespucci ait posé pour Botticelli, mais on peut imaginer ce que cela aurait donné. Simonetta, vêtue d'une belle robe colorée, reçoit le peintre dans ses appartements. Il lui demande avec déférence de se tourner à gauche, puis à droite pour mieux capter la lumière. Elle obéit, tandis que le peintre esquisse rapidement quelques croquis de son visage. Si cette scène a eu lieu, rien n'est moins sûr, Botticelli espère certainement pouvoir renouveler l'expérience. Hélas, il n'en aura pas l'occasion. Début avril 1476, la jeune femme de 23 ans à peine tombe malade. Laurent de Médicis inquiet s'empresse de lui dépêcher son propre médecin. Il demande aussi qu'on le tienne informé de son état. Une lettre lui parvient. Simonetta est comme vous l'avez laissé. On ne peut guère dire que son état se soit amélioré. Nous restons tous vigilants. Hélas, la jeune femme s'éteint, sans doute de la tuberculose. Tout Florence assiste au cortège funèbre. Les grandes familles, bien sûr, mais aussi peut-être les artistes que la jeune femme a côtoyés. Léonard de Vinci, le Ghirlandaio, Filippo Lippi et Botticelli. Laurent de Médicis décrit la belle endormie à tout jamais. Ceux qui l'avaient connue, hormis leur chagrin, éprouvèrent de l'admiration, en voyant que dans la mort, sa beauté, qui de son vivant avait semblé insurpassable, se trouvait sublimée. Simonetta Vespucci est tout juste enterrée qu'elle devient un mythe, continuant d'inspirer les artistes. Le peintre Piero di Cosimo n'a que 14 ans quand il suit le cortège funèbre, mais il peint des années plus tard un célèbre portrait de la jeune femme, le buste nu et le cou entouré d'un serpent. Sur le tableau conservé au château de Chantilly est écrit « Simonetta Vespucci, la génoise ». Je le précise car c'est important, il s'agit du seul tableau dont nous disposons désignant officiellement Simonetta Vespucci. Pour les autres, voyez-vous, cela n'est que de la spéculation. Pourtant, on dit que les longs cheveux blonds vénitiens et le teint lumineux de la jolie Simonetta auraient hanté les tableaux de Botticelli quasiment jusqu'à la fin de sa carrière. Peu de temps après la mort tragique de la jeune femme, Botticelli s'attaque à son allégorie « Le printemps », peinte entre 1477 et 1482, dans laquelle elle incarne l'une des trois grâces. Vêtue de voiles légers, elle danse élégamment en compagnie de deux autres. Nombre de figures féminines qu'il peint par la suite auraient les traits de sa muse disparue. Simonetta Vespucci est clos, divine dans la naissance de Vénus en 1485. Innocente, il lui aurait donné les traits de la Vierge à la Grenade en 1487. 15 ans avant de disparaître, le Florentin peindra son dernier nu, la calomnie d'appel, en s'inspirant du souvenir de la belle Florentine. En 1510, quand le peintre s'éteint, on l'enterre à sa demande dans l'église florentine d'Ognissanti, de tous les saints, non loin de sa tombe, la tombe de sa muse, Simonetta Vespucci. Quitte à casser le romantisme de mon récit, je dois toutefois préciser que cette dernière volonté était assez logique, puisque le caveau familial, dit Botticelli, oui, s'y trouvait déjà.
Oui, ça casse un peu le truc.
Europe 1, historiquement vôtre.